Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sounois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sounois Assurance. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de ces produits du quotidien qui, utilisés de manière appropriée, avec discernement, ne présentent aucun risque. En revanche, ces mêmes denrées mal préparées, détournées de leur usage ou consommées très souvent, peuvent présenter des risques réels pour la santé. Le kaolin, d'abord, sa consommation, c'est souvent une affaire de femmes en Afrique de l'Ouest. De génération en génération, on prête de fausses vertus à l'ingestion de cette argile qui, nous le verrons, peut se révéler non seulement dangereuse pour ses consommatrices, présenter des risques pour les enfants à naître, mais aussi créer une dépendance. Le manioc, s'il est préparé et cuit selon la bonne recette, aucun souci. En revanche, sa consommation crue a un effet direct sur la santé de la thyroïde. Et puis, un fruit, le citron, cet ingrédient si souvent cité par nos auditeurs, qui présente des bienfaits réels, mais peut, en dehors de la cuisine, utilisé pour l'hygiène des dents ou l'hygiène intime, se révéler particulièrement irritant ou corrosif. Alors, des conseils et des mises en garde, des réponses à des questions concrètes pour revenir à des pratiques tout simplement bonnes pour la santé. C'est tout de suite dans Priorité Santé. Et pour répondre à ces questions, pour donner des conseils, trois invités en ligne du Burkina Faso, on vous retrouve, Dr Gloria Damoaliga-Bergès, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin généraliste, chef de service des urgences et de la médecine générale à l'hôpital Chifra de Ouagadougou, en ligne du Sénégal. Avec nous, docteur Abdoulaye Diop, bonjour.
Bonjour Caroline.
Gynécologue, obstétricien, médecin-chef à la clinique Nest à Dakar. Et tout à l'heure, on va rejoindre en ligne de Côte d'Ivoire le docteur Hervé Kwame Mikondo. Il est pédiatre, endocrinologue et nutritionniste à Abidjan.
Priorité santé sur RFI.
Alors bien évidemment, quand on a posté sur la page Facebook de l'émission le sujet du jour, des auditeurs nous ont demandé si employer du citron en assaisonnement, pressé en jus, manger régulièrement du foutou, de la tiéké, cela présentait des risques pour la santé. Alors avant de parler des dangers, de mettre en garde, docteur Gloria Bergès, on va commencer par rassurer tout le monde. Pas question de provoquer une panique dans les cuisines, puisqu'en effet, on parle dans cette émission des risques associés aux pratiques inappropriées, non pas des recettes familiales et des plats qu'on retrouve tous les jours sur les tables à Bobo, à Bukavu ou à Cotonou. Pas de panique.
Absolument, pas de panique. Pas de panique du tout.
Et il y a les usages en famille qu'on connaît depuis très longtemps, qui sont des bonnes pratiques. Là, on va parler de choses très ciblées.
Oui, exactement.
Alors, pour bien comprendre, oui. On va s'appuyer sur nos auditeurs. Ils nous ont vraiment aidés aujourd'hui à préparer cette émission. On va être concret, docteur Bergès. Je me tourne vers vous pour commencer. Sur Facebook, on a Nandi. Nandi nous explique qu'elle prépare chaque matin du citron pressé. Elle ajoute 2 litres d'eau chaude. Elle laisse refroidir et elle boit cette préparation au cours de la journée. Elle se demande, parce qu'elle souffre d'anémie chronique, si ça peut lui causer des problèmes de santé, cette boisson, cette préparation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, en effet, en fait, le citron, il est vraiment bon pour la santé, il y a beaucoup plein de vertus. Cependant, c'est chez certains sujets particuliers qu'on tire l'attention, surtout chez les sujets ulcéreux, qui souffrent d'ulcères gastro-duodénales ou de pathologies gastriques, parce que l'acidité du citron pourrait justement créer ou aggraver ce tableau d'ulcère gastro-duodénal. Mm-mm. Cependant, dans l'anémie, c'est sûr qu'il y a des signes de fatigue qui se présentent constamment et le citron contenant justement de la vitamine C peut justement aider cette patiente à tenir. Mais il faut qu'elle soit justement accompagnée par des agents de santé.
Surveillée par un médecin, une infirmière ou un agent de santé régulièrement, en tout cas, ce n'est pas directement absolument. Le citron qui provoque ce problème sanguin.
Absolument, absolument. Je pense que cette anémie chronique doit être vraiment investiguée parce qu'il y a plusieurs causes, plusieurs étiologies. Et donc, si elle ne connaît pas la cause jusque-là, il faut qu'on la connaisse pour pouvoir l'aider à s'en sortir.
Il faut en chercher
sinon,
la cause.
Sinon, le citron, absolument. Absolument, parce que le citron, simplement, il n'aide qu'aux effets, en fait, pour pallier aux effets de l'anémie, mais il ne règle pas la question de l'anémie.
Alors, hydratation, vitamine, on l'a compris. Maintenant, tout autre usage. Et pour cela, on va partir pour le Congo.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Alors, on vous retrouve en ligne. Enacha, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc en direct de Brazzaville. Racontez-nous, vous aussi consommatrice de citron, expliquez-nous comment vous utilisez ce citron.
Bonjour, docteur. Mais en fait, moi, j'utilise le citron beaucoup plus pour l'hygiène corporelle. Mm-hmm. Et je l'utilise un citron dans un seau d'eau de 10 à 15 litres. Mm-hmm. Et je me lave avec. Bon. Beaucoup plus parce que le citron ayant plusieurs vertus, entre autres, éviter la transpiration, éliminer les mauvaises odeurs corporelles et combattre la graisse sur la peau, surtout lutter aussi contre les acné. Mm-hmm. Donc ma question est de savoir si l'utilisation du citron à long terme peut-elle être agressive sur la santé génitale ou sur... provoquer peut-être des irritations sur la peau. Je voudrais savoir si l'utilisation quotidienne du citron peut être agressive sur ma santé génitale ou sur la peau.
Parce que vous utilisez non seulement pour la toilette corporelle, mais aussi pour la toilette intime. Ça revient à ce que nous explique une autre auditrice, hein, c'est Zéna. J'utilise du citron pour l'hygiène intime 2 fois par semaine. J'espère que ce n'est pas dangereux pour la santé. Moi, tout de suite, je vous pose une question, Enacha, avant de donner la parole à nos médecins, au docteur Bergès et bien sûr au docteur Abdoulaye Diop, puisqu'il est gynécologue et connaît très très bien la question. Une question très simple pour vous, Enacha. Vous n'avez pas d'irritation? Vous ne sentez pas de picotement ou que votre peau est sèche parfois après cet usage?
Non.
Non, pour vous, pour l'instant, pas de problème. Je vais poser la question, puisque vous parlez de santé intime, de toilette intime au docteur Abdoulaye Diop. C'est vrai qu'on entend souvent cette question, et forcément, j'imagine que ça va faire réagir le gynécologue que vous êtes, sur l'usage du citron pour la toilette intime. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je vais commencer par dire le hashtag que j'avais lancé l'année dernière sur les réseaux sociaux, quand j'ai eu vent justement de l'utilisation de citron, de gingembre, de menthe, etc. pour la toilette vaginale. Je le dis et je le répète, le vagin n'est pas une cuisine. Mmh. Le vagin n'est pas une cuisine. Donc il est inadmissible, il est même choquant de voir l'utilisation de ces produits domestiques, de ces produits alimentaires à l'intérieur du vagin ou même à l'extérieur du vagin pour soi-disant rechercher des vertus thérapeutiques.
Parce que c'est vraiment, docteur, il faut le préciser, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les témoignages, bien sûr, les interventions aussi bien des médecins qui soignent les femmes en Afrique de l'Ouest que des auditrices elles-mêmes, ces usages, alors on prête toutes sortes de vertus, rétrécissement, confort sexuel, lutte contre les infections, voire même contraception, on le dit, on le redit, docteur Diop, tout ça, c'est totalement faux et c'est totalement néfaste.
C'est totalement faux et c'est totalement néfaste. Et c'est extrêmement dangereux d'utiliser ces produits-là, de les mettre à l'intérieur de la cavité vaginale, à l'intérieur de la... Ça peut créer d'énormes problèmes. Ce sont même des facteurs qui, à long terme, peuvent accélérer le processus de survie de cancer gynécologique.
Enacha, est-ce que vous avez entendu ce que vient de dire le docteur Diop? Est-ce que vous êtes prête à renoncer à cette pratique de la toilette intime avec de l'eau citronnée?
Oui, je viens bien de saisir. Et en fait, juste pour une précision, je n'utilise pas ça concrètement pour la toilette intime, c'est juste pour le bain normal. Mm-hmm. Et je me demande si vraiment, comme je mets du citron, s'il pourrait avoir une conséquence.
Mm-hmm. Pas directement en toilette intime, mais en toilette corporelle. Docteur Bergès, on a dans la même ligne de pensée Vivien au Bénin qui évoque lui aussi ce fameux pouvoir du citron, là pouvoir blanchissant pour éclaircir la peau, pour blanchir les dents. Et si, il se demande si ça peut être potentiellement dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Bergès?
Et oui, comme mon collègue l'a dit tantôt, c'est vraiment dangereux. Le citron, il est, quand il est bien maîtrisé, ça a des vertus. Mais quand il est détourné ou que l'on exagère, on peut créer justement des complications irrémédiables. Parce qu'on peut l'utiliser comme détergent, on peut l'utiliser comme justement dans les produits de dépigmentation. Parce qu'il y a de l'acide citrique en question. Voilà. Et cet acide citrique, elle n'est pas si anodine quand il est utilisé de manière excessive. Et donc, à l'utiliser même sur les dents, ça peut affaiblir l'émail dentaire. Et les dents sont sujets aux caries dentaires. Donc, comme on le dit souvent, tout excès nuit. Et quand on ne maîtrise pas, il vaut mieux s'abstenir justement des pratiques que l'on maîtrise pas. Il faut vraiment trouver l'équilibre.
Et ne pas prendre ces produits qu'on juge justement anodins et en faire n'importe quoi, vouloir les transformer en médicaments. Docteur Diop, on a d'autres questions sur le citron, hein, on le dit vraiment, ça revient très très régulièrement dans vos messages Facebook. Est-ce que le citron peut annuler l'effet de certains médicaments, docteur Diop? Est-ce que vous avez une réponse à ce sujet?
Non, le citron n'annule pas l'effet de certains médicaments. Le citron peut être utilisé dans l'alimentation classique. Le citron est même très bon pour la lutter contre certaines maladies qui, heureusement, maintenant ont disparu, comme le scorbut. Donc, le citron a vraiment des vertus thérapeutiques, a des vertus alimentaires, nutritives. Et c'est l'utilisation détournée du citron au niveau de la peau, au niveau des gencives, au niveau des parties végétales qui pose problème.
C'est vraiment faire la part du vrai, du faux. Beaucoup de fake news sur tel fruit, tel autre fruit, l'avocat, le citron, l'ananas, la banane. Comment est-ce que vous expliquez ça, docteur Diop, qu'il y ait des grands mouvements de rumeurs au sujet de certains produits du quotidien? Vraiment, cette formule que vous avez utilisée tout à l'heure, le corps des femmes, l'intimité des femmes n'est pas une cuisine. Comment est-ce qu'on en vient à utiliser du sel? J'aime en gynécologie, vous avez bien compris, ça veut dire mettre du sel dans l'intimité féminine, mettre du citron, certaines mettent d'autres racines. Comment est-ce qu'on peut en arriver là?
Je pense qu'il y a un mélange de méconnaissance, d'ignorance par rapport à l'anatomie féminine et une confusion au niveau de certaines réactions qui ont été induites par l'utilisation de ces produits. Si on met du citron dans le vagin, si on met du citron ou bien de la craie ou bien du gingembre à l'intérieur, oui, ce sont des produits qui ont des produits actifs, qui ont des principes actifs, qui vont créer une sorte de sensation, de rétrécissement des petites parties intimes en rapport avec un dessèchement, justement, en rapport avec une déshydratation de ces muqueuses vaginales. Donc cet effet sera certes ressenti à court terme et de manière immédiate, mais c'est un effet qui est dangereux et c'est un effet corrosif qui brûle la muqueuse vaginale, qui brûle les parties intimes. Et donc cet effet que l'on ressent, certes, un effet recherché, retrouvé de rétrécissement transitoire du vagin, des parties intimes, cet effet-là est délétère, cet effet-là est extrêmement dangereux parce que ça va blesser, ça va agresser, ça va détruire cette muqueuse qui va perdre ses capacités de régénération à long terme et ça va être à l'origine des régions précancéreuses.
Docteur Abdoulaye Diop, on a bien compris pour ce produit en particulier. On va maintenant nous arrêter, si vous le voulez bien, sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. L'information, les avertissements qui concernent un produit très particulier, d'ailleurs, beaucoup de gens en ignorent l'utilisation en dehors de l'Afrique de l'Ouest. Et pourtant, dans votre région, ce produit est très connu, c'est le kaolin. Alors, on va d'abord donner une explication pour tous nos auditeurs du monde entier. Expliquez de quoi il s'agit précisément.
Oui, le kaolin est une argile, est une pierre argileuse qui est utilisée par certaines femmes qui est pour des problèmes dermatologiques. C'est un peu une sorte d'argile verte, entre guillemets, d'argile grise, qui a des vertus au niveau de la peau. Et on sait que de temps en temps, quand on a certaines maladies dermatologiques, on peut utiliser des masques à base d'argile et ça peut avoir un effet régénérant sur la peau. Malheureusement, nous avons vu que cette argile est utilisée à des buts alimentaires et il y a des femmes qui en consomment des quantités astronomiques, ce qui met en danger leur vie et parfois la vie du bébé qu'elles portent.
Ça veut dire qu'elles mangent cette terre blanche régulièrement dans la journée. Alors beaucoup d'auditeurs d'auditrices ont réagi à cette affaire de consommation de kaolin pour illustrer un témoignage. C'est celui de Muriel, c'est une auditrice du Burkina, chez vous docteur Bergès. Elle explique que pour elle, manger du kaolin, c'est devenu une habitude et que c'est très difficile d'arrêter. On l'écoute, elle s'est confiée à la messagerie WhatsApp de Priorité Santé.
Bonjour Caroline, bonjour docteur. Je me nomme Muriel, j'ai 22 ans et je suis du Burkina. J'ai commencé à consommer le kaolin depuis l'âge de 9 ans et c'est une amie beaucoup plus âgée que moi qui m'en donnait à chaque fois. Au fil du temps, j'y ai pris l'habitude et jusqu'à présent, malgré de nombreuses prises de comprimés et sirop de fer, je n'arrive pas à abandonner. Alors ma question est de savoir comment réellement sortir de cela, car j'ai beaucoup de problèmes, notamment la constipation et des fois des règles douloureuses. J'ai été plusieurs fois en consultation et l'infirmière m'a dit que cela était dû au kaolin. Maintenant, je me réfère à vous pour avoir quelques solutions. Merci.
Question de Muriel qui voudrait arrêter, qui a du mal. On va parler de cette addiction. J'ai une autre préoccupation, j'ai une autre question. Un auditeur de Lubumbashi, c'est Lucas, il nous explique que son épouse, elle est enceinte. Elle mange beaucoup de kaolin, sous prétexte que ça diminue ses nausées. Docteur Abdoulaye Diop, quel conseil pour ses auditeurs, pour Muriel, qui a envie d'arrêter mais qui n'arrive pas, et pour Lucas, lui qui voudrait dire à sa femme d'arrêter, mais apparemment elle poursuit sa consommation de kaolin.
Malheureusement, ces deux tableaux montrent un peu l'utilisation de ce kaolin par nos populations. Pour le premier cas de Muriel, ça est devenu une addiction pour elle. Elle en consomme depuis l'âge de 9 ans. Toujours pas de mimétisme au début, avec quelqu'un de plus âgé qui l'a initié à ça. Elle en est arrivée à avoir des conséquences réelles de cette utilisation de kaolin, avec son anémie chronique, ses difficultés de concentration, de troubles du transit, etc. Et c'est un tableau typique, justement, d'une consommation chronique et excessive de kaolin. Le cas de Lucas avec sa femme, son épouse qui est enceinte, il faudrait qu'il explique que son épouse soit consciente du fait que cette utilisation, cette consommation de kaolin va mettre en danger la vie du prochain bébé qu'ils vont avoir. Parce que si jamais elle va se retrouver avec une carence de vitamine B12, par exemple, vitamine B12 qui est censée être absorbée par la muqueuse utérine, et ce kaolin va, la muqueuse intestinale plutôt, et ce kaolin va empêcher cette vitamine d'être absorbée, l'enfant peut naître avec des malformations gravissimes, des malformations notamment au niveau du système nerveux du bébé. Donc il faudrait qu'elle soit conscientisée à ça et qu'elle fasse le plus rapidement possible l'utilisation de ce kaolin.
Donc c'est très important de répondre aux différentes questions parce que la santé des personnes, des mamans, des bébés est en jeu. Justement, à ce propos, on va retrouver un auditeur en ligne de Ouagadougou, c'est Laurent. Laurent, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors expliquez-nous pourquoi vous avez décidé d'appeler Priorité Santé, on vous écoute.
Ok, j'ai un bébé de 9 mois, voilà, qui consomme de la terre. Et pour éviter cette consommation, j'ai préféré lui donner du kaolin ou de la craie. Voilà, dès qu'il prend le kaolin ou la craie, il se tait. Voilà, mais cependant, il n'arrête pas de consommer la terre.
Mais parce qu'il est posé, à même le sol, ce bébé, dans la cour?
Non, il n'est pas... mais quand il voit la terre...
Il a une attirance.
Il veut descendre.
Moi, je vais donner la parole au docteur Diop, mais moi, je vais vous poser une question en tant que, j'ose le dire, en tant que maman. Vous ne pensez pas que c'est à vous de montrer à votre bébé ce qu'il est bon ou pas de manger et pas lui donner des choses qui l'attirent forcément? Imaginons qu'il ait à côté de lui un caillou. Vous le laisseriez manger un caillou?
Bon, le problème, c'est que même les petits cailloux, quand il voit, il veut en manger.
Il faut le mettre hors de la portée des cailloux.
Mais dès qu'il a la craie ou le kaolin, voilà, il se tait et puis, bon, il laisse tomber, quoi.
Bon, je vais donner la parole au docteur Diop, qui est médecin, qui saura trouver les mots pour vous conseiller. Mais moi, quand je vous entends, Laurent, je dis que l'éducation, ça commence aussi par mettre hors de la portée des enfants certains objets et pas de remplacer l'un par l'autre. Docteur Diop, qu'est-ce que vous pouvez dire à Laurent?
Je pense que là, Laurent doit prendre en main sa responsabilité de parent. Et le faire choisir à son enfant de lui donner de la craie et du kaolin pour qu'il ne mange pas de sable, c'est la même chose. Cette géophagie, cette consommation de sable ou la consommation du kaolin ont exactement les mêmes effets sur le bébé et sur son enfant. Et donc, il ne faut pas qu'il croit qu'en lui donnant de la craie ou en lui donnant du kaolin à la place du sable, il règle un problème. Au contraire, il y a un état, je pense, qu'un problème d'éducation de base à la nutrition qui se pose et que c'est sa responsabilité d'arrêter de donner et du sable et du kaolin et de la craie à son enfant, de l'amener chez un pédiatre pour éventuellement le déparasiter, qu'il est carrément certain que cet enfant est infesté de parasites intestinaux, et de lui proposer une alimentation équilibrée pour que son développement psychomoteur, se normalise. Là, je pense que c'est sa responsabilité qui est au premier plan. Il faut qu'il arrête de
faire ça. Il faut arrêter de faire ça. Il a des vers, des parasites, parce que quand on met de la terre à sa bouche, ben forcément, après, il va y avoir le développement de certains parasites. Moi, j'ai une question toute bête, peut-être une question de un peu naïve. Laurent, vous avez les moyens d'acheter une tétine à votre bébé ?
Oui.
Une tétine. Docteur Diop, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas la clé de l'éducation. C'est un petit peu un... Mais ça vaut mieux quand même pour un bébé d'avoir une tétine dans la bouche que de mastiquer un bout de kaolin.
Je préfère encore cette tétine plutôt que la craie ou le kaolin.
Mieux vaut aller vers la santé. Hein. Ce n'est pas toujours des conseils d'éducation imparables, mais au moins mieux vaut aller vers la santé. Laurent, en tout cas, comme l'a dit le docteur Diop, hein, ce conseil de bon sens, allez en parler à un pédiatre, allez en parler à une infirmière, à une sage-femme, pour voir ensemble quelles solutions très concrètes vous pouvez trouver. En tout cas, complètement arrêter cette pratique. C'est vraiment le conseil du jour, le conseil que le docteur Diop donne aux auditrices. Mais bien sûr, aussi aux parents, quelque chose à éviter, avec une autre question de santé liée à ce kaolin, et que je vais soumettre au docteur Bergès, parce qu'à Ouagadougou, vous prenez en charge particulièrement des patients drépanocytaires, hein, docteur Bergès, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça, oui.
Et c'est le cas de notre auditrice, hein, Marceline. Vous êtes en ligne de Yaoundé. Bonjour, Marceline.
Bonjour, Caroline.
Alors, expliquez-nous, vous êtes drépanocytaire, et racontez-nous ce qui se passe chez vous à Yaoundé.
Oui. Généralement, quand je suis anémie, je suis tout le temps anémie, j'ai une envie, une très grosse envie de manger du kaolin. Et puis, quand je mange du kaolin, plus mon anémie augmente, ça fait que je dois prendre des transfusions. Et après, quand j'ai pris des transfusions, je n'ai plus cette envie de consommer du kaolin.
Excusez-moi Marceline, depuis quand est-ce que vous consommez cette argile ? Depuis quand ?
Disons depuis un moment, depuis 3 mois environ.
Ça a commencé comment ? Comment vous est venue l'idée ?
Juste que j'ai eu une envie soudaine et puis je me suis dit, bon, je prends un morceau et puis c'est parti de là, j'ai pris un morceau et puis un autre et un autre et puis je peux plus m'en passer.
Vous êtes allé l'acheter au marché ou c'est une copine qui vous l'a donné?
Non, je l'ai acheté pas au marché, bon, oui, disons au marché, oui.
Mmh. Et pourquoi vous avez eu l'idée d'en prendre? Parce que vous l'aviez vu faire dans votre famille, chez vos amis, au village, pourquoi?
Oui, vous savez, le kaolin ici, c'est comme si c'est transmissible.
C'est ça.
On mange ça de génération en génération. Les mamans en consomment, les grands-parents en consomment, les tantines. Et puis, c'est comme ça qu'on entre les dents, nous les jeunes, nous les enfants. Et puis, par mimétisme, comme le docteur a dit tout à l'heure.
Est-ce que vous vous sentez coupable d'en manger? Est-ce que vous dites, c'est pas bon pour moi, malgré tout, j'arrive pas à arrêter? Est-ce que vous avez envie d'arrêter?
Oui, j'en ai tellement envie d'arrêter parce que mon anémie est de plus en plus persistante et il faut des transfusions pour faire passer cette anémie-là.
Vous en avez parlé au médecin? Vous lui avez dit que vous preniez du kaolin ou vous aviez un petit peu... Vous aviez envie de cacher cette information?
Je ne peux pas dire ça au médecin, il me tuerait.
Vous avez honte de ce que vous faites, c'est ça, si on peut utiliser
oui,
ce
oui.
mot.
Oui, oui.
Malgré tout, vous avez envie d'arrêter?
Oui, beaucoup. Je veux vraiment arrêter parce que je souffre de myomes, de kystes et on dit que tout ça est lié au kaolin.
Docteur Bergès, quand vous entendez Marceline, elle a envie d'arrêter, c'est une bonne nouvelle.
Oui, absolument. Marceline a vraiment besoin que l'on l'accompagne pour arrêter parce que ce kaolin lui fait beaucoup plus de mal en tant que drépanocytaire.
Ça veut dire que déjà pour une femme en bonne santé, c'est à proscrire absolument. Faut arrêter oui. d'en prendre, mais alors en plus quand on est drépanocytaire, faut même pas y penser, faut pas approcher.
Ben oui, parce que déjà il y a beaucoup de carences et dans certaines anémies chez les drépanocytaires, il y a le manque de fer et le kaolin souvent empêche le fer de se fixer, d'où l'aggravation de son anémie. Et en plus, ce kaolin qui est mal manipulé, parce qu'on ne le prend pas en pharmacie, on le prend dans les bras des marchands ou marchés, qui est souvent contaminé avec des germes, des bactéries comme la salmonelle. La salmonelle qui est dangereuse chez les drépanocytaires. Donc la typhoïde, la guêpe, l'anémie s'aggrave. Donc, et il y a aussi cette addiction qui ne lui fait pas du bien. Donc, c'est bien qu'elle en parle à cette émission, mais qu'elle ait le courage de retourner vers son médecin, parce que ce n'est pas forcément de sa faute. C'est parce qu'une fois, elle a déjà eu peut-être le goût du kaolin dans la tête, je veux le dire. C'est un peu culturel, parce qu'en Europe ou ailleurs, quand on ne connaît pas un aliment, on ne va pas se mettre à le manger. Mais une fois que l'enfant a été initié à l'enfance, peut-être une fois grand, quand il y a un besoin, le corps est en manque, ou du moins l'anémie crée le besoin, mais ce goût revient dans la psychologie, parce qu'il y a aussi une notion psychologique dans cette consommation d'anémie. Et donc, Marceline a vraiment besoin qu'on l'aide, et je vais l'encourager fortement à demander vraiment de l'aide auprès de son médecin, même s'il va la gronder, qu'il la gronde, mais qu'il l'aide à sortir de là, parce qu'elle est plus en danger en restant dans l'addiction.
Et c'est important aussi, Marceline, dans la façon dont vous allez présenter les choses à votre médecin. Par exemple, lui dire, je vous ai caché cette information, mais je veux que vous m'aidiez pour que j'arrête. Et pas arriver en disant que vous en prenez. Simplement lui dire, moi, je suis là pour arrêter avec vous. J'ai besoin de votre aide. Je pense que c'est important, docteur Diop, justement, passer au-delà du tabou, au-delà de la honte, comme c'est souvent avec une substance qui entraîne la dépendance. Mais reconnaître qu'on a un problème, reconnaître qu'on est malade, et que quand on est malade, eh bien, c'est un médecin qui peut nous aider.
Première étape pour pouvoir lever le tabou de cette addiction, c'est la prise de connaissance de cette addiction elle-même. Donc reconnaître qu'on est malade, qu'on a du mal à s'en départir, c'est la même chose que reconnaître qu'on a du mal à décrocher l'alcool, à décrocher le tabac, à décrocher certaines drogues. C'est vraiment une addiction au même titre que toutes les grandes addictions reconnues par la médecine moderne.
Et justement, même question pour le Burkina sur cette dimension un petit peu de tabou. Vous parliez de dimension culturelle, docteur Bergès. Est-ce que c'est une question qu'on aborde facilement ou qu'on cache encore, que les femmes, par exemple, cachent à leur médecin ?
Oh non, bon, personnellement, mes patients s'assument, mais par rapport à leur consommation de kaolin, et personnellement, je pose expressément la question.
Mais justement, peut-être que c'est ça la démarche aussi. Peut-être que on en parle à certains médecins et pas à tous les médecins, quand on sait que il va y avoir une oreille ouverte qui va accepter, qui va comprendre de l'autre côté.
Mais oui, il y a une part de ça. Et c'est à nous aussi, praticiens, de pouvoir aider les patients à se livrer dans l'interrogatoire, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire de la police ou juger. On est là pour aider. Et si on voit qu'une certaine complication peut être liée à la consommation de kaolin ou à autre chose, on peut poser directement la question, et ça mettrait peut-être la personne à l'aise pour nous l'avouer et permettre qu'on puisse avancer. Parce qu'une fois qu'on sait que voilà, il y a cette addiction, ça nous aide aussi dans la démarche diagnostique.
Et on peut mieux soigner, forcément. On va se retrouver dans quelques minutes. On va rejoindre la Côte d'Ivoire. Tout de suite, une petite respiration musicale. C'est avec Mouzi et ce titre Fouma.
Tryna meet ya, love ya, heart beating fast, yeah. Just the love, you say you too busy, maybe exhaust ya. Stupid boy, cause I trust ya. On a rush, tryna meet ya, love ya, Uber too slow, yeah. What a bummer, girls in the call, game too smoothie. Go on with your bad self. I'm too clingy. Maybe exhausted, stupid boy, cause I trust ya. No, on a rush, tryna meet ya. Love ya, cry then sleep ya. What a bummer, boys in a call, I'm getting a chance. Go on with your bad self. No.
C'était Mouzi, Priorité Santé sur RFI. On continue de parler de ces produits du quotidien qui, mal utilisés ou consommés trop souvent, peuvent présenter de vrais risques pour la santé. On a compris, on ne se lave pas les dents avec du citron, on évite de consommer du kaolin, là tout simplement absolument, même en cas de nausée. Et maintenant, on va voir que le mode de préparation de certains aliments est essentiel pour éviter certains troubles.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Docteur Hervé Kwame Mikondo, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes pédiatre, endocrinologue, nutritionniste en Côte d'Ivoire. Alors, pour le coup, il s'agit de la bonne préparation de l'un des aliments que l'on retrouve le plus souvent sur les tables d'une bonne partie des régions d'Afrique de l'Ouest, le manioc. Dans quel cas précis, dans quelles circonstances, manger du manioc, ça peut être préjudiciable pour la santé, docteur Mikondo?
Okay. Merci beaucoup Caroline. Comme vous l'avez dit, le manioc est beaucoup consommé dans nos régions tropicales. Et le manioc se consomme sous plusieurs formes. Et je voudrais rassurer les auditeurs que ce n'est pas toutes les formes de consommation du manioc qui sont dangereuses.
Bien évidemment, on l'a dit en début d'émission, hein, quand on va n'importe où, en famille, au restaurant, manger du manioc, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Là, ce sont des pratiques traditionnelles qui sont peut-être de plus en plus rares, mais ça vaut le coup de mettre en garde quand même.
De mettre en garde et de préciser. Donc le manioc, quand il est consommé cru, est dangereux pour la santé. Mmh. Le manioc contient des cyanures, une substance qu'on appelle la nidamarine qui agit directement sur la thyroïde et qui peut agir également sur les cellules nerveuses. Donc, c'est vraiment important de savoir que le manioc, dès qu'il est consommé cru, a des effets néfastes sur la santé. Et le manioc également peut être à l'origine de certaines intoxications parce que c'est l'un des tubercules importants mais qui a la possibilité de capter certains minéraux, certains éléments dans le sol et entraîner également un danger pour la santé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le manioc, quand il est consommé cru ou bien quand il est mal cuit, a une répercussion sur la santé.
Et c'est justement ce que nous a dit notre auditeur Christ, hein, qui est étudiant à l'université de Kinshasa. Il apprend la pharmacie et son prof de pharmacie lui a donc appris qu'on pouvait avoir des intoxications en cas de mauvaise préparation de ce manioc. Est-ce que ce phénomène, ces intoxications et ces dérèglements de la thyroïde, on les retrouve dans certaines régions?
Oui, également, on les retrouve dans certaines régions montagneuses surtout. Des régions montagneuses où ces pathologies-là sont vraiment retrouvées, à type de goitre surtout, de goitre, la subvenue de goitre.
Avec un gonflement au niveau du cou, et c'est surtout quand on consomme du manioc depuis qu'on est enfant, c'est bien cela?
L'élément important que je voulais mettre en évidence aussi, c'est la régularité dans la consommation du manioc.
Oui.
Le manioc, quand il est consommé occasionnellement, il n'y a vraiment pas de problème. Mmh. Mais la consommation régulière du manioc, surtout les formes mal cuites ou crues, entraîne vraiment ces complications dont on m'a parlé.
Est-ce qu'aujourd'hui, ces complications, docteur Mikondo, elles sont de plus en plus fréquentes ou c'est plutôt un phénomène en régression?
Oui, je pense que c'est un phénomène en régression. Les gens sont de plus en plus sensibilisés. Il y a des cellules de nutrition dans presque tous les centres de prise en charge des pathologies. Donc, je pense que ce phénomène est de plus en plus en régression.
Et c'est pour ça, tout à l'heure, que vous disiez que ça se retrouve dans des régions montagneuses, parce que c'est plutôt des personnes qui vivaient dans des coins assez reculés, assez isolés, qui avaient moins d'accès à l'information?
C'est ça, c'est bien ça. Au départ, l'information, l'accès à l'information posait peut-être problème, mais maintenant, je pense qu'avec la sensibilisation, avec tout ce qu'il y a comme moyen d'information, je pense que ces phénomènes-là sont en nette régression.
Docteur Hervé Kwame-Mikondo, vous êtes pédiatre, vous tenez également, on parle justement de ces gestes du quotidien, notamment au niveau alimentaire, qui peuvent porter préjudice. Vous tenez aussi à mettre en garde contre certaines mauvaises habitudes en ce qui concerne l'alimentation des jeunes enfants, des petits bébés, notamment les enfants de moins de 6 mois. Vous dites en quelque sorte, attention à certaines farines infantiles.
Bien sûr. Dans nos pratiques quotidiennes, on a remarqué que certains mamans, désirant que leur enfant prenne du poids assez rapidement, utilisent certaines farines, et certaines farines non forcément recommandées en pharmacie. Et après investigation, je me suis rendu compte que c'était des farines à base de maïs, et on me parle d'amidon de maïs. Mmh. Et ça, c'est pas des aliments recommandés, surtout qu'à 26 mois, c'est le lait maternel qui est recommandé exclusivement, et dans les cas échéants, une alimentation de substitution, elle est de substitution. Donc, ces éléments-là ne sont vraiment pas recommandés dans l'alimentation des enfants.
Jusqu'à 6 mois, voilà. du lait, on peut dire ça, parce que pour absorber d'autres produits, on va dire que le corps, l'estomac, les intestins du bébé ne sont pas matures, ils ne sont pas encore prêts.
À ingérer ces genres d'aliments-là. Mmh. Et on a des malnutritions qui vont survenir ultérieurement, des anémies et des gastro-entérites, c'est-à-dire des troubles digestifs vraiment difficiles à gérer après.
Le bébé grossit à son rythme, c'est pas la peine, en fait, de lui, hein, pour parler trivialement, de lui bourrer le biberon, c'est pas la peine.
Oui, c'est pas la peine de donner des trucs qu'on ne maîtrise vraiment pas.
Pas du tout.
Donc, c'est toujours avoir recours à un professionnel de santé.
Alors, important pour donner une bonne information, même si pendant cette période un peu particulière, avec la crise sanitaire, on peut avoir des réflexes qui ne sont pas toujours les bons. C'est ce que vous avez constaté, hein, docteur Bergès. On vous retrouve à Ouagadougou. C'est ce que vous avez constaté avec la Covid-19, le coronavirus, des préparations traditionnelles avec certaines feuilles d'arbres qui ont été utilisées par vos concitoyens. Les feuilles de Nîmes, c'est ça? C'est comme ça qu'on prononce?
Oui, c'est ça, c'est les feuilles de Nîmes.
Alors, de quoi s'agit-il?
Bon, le nîmier, c'est un arbre qu'on retrouve un peu partout en Afrique, et surtout au Burkina, et qui a des feuilles amères, qu'on utilise surtout en esthétique. Mais quand, au début de l'épidémie, il était question de traitement à la chloroquine et tout, et que la chloroquine équivaut à Nîmes chez nous parce que le goût, il est amer, les uns et les autres n'ont pas attendu les études ou en tout cas des protocoles. Ils ont couru sur les arbres et ils ont voulu faire des préparations. Et comme c'est indigeste, on ne peut pas absorber, c'est tellement amer, ils ont ajouté du citron. Pour en faire des cocktails sans respecter des quelconques dosages. Et ils ont commencé à faire des cures parce que selon des croyances, en fait c'est juste des croyances, j'y pense et je pense que et je m'y mets. Et jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment des intoxiqués, hein. On a eu des insuffisances rénaux justement liées à ces pratiques et on a dû, les agents de santé ou en tout cas le ministère a dû monter au créneau pour informer de la dangerosité de ces pratiques. Et donc, je pense que les uns et les autres, c'était lié aussi à la panique, il n'y a pas de médicaments, donc chacun trouve son bouée de sauvetage.
Ça veut dire qu'on ne s'improvise pas pharmacien, pas plus d'ailleurs qu'on ne s'improvise tradis. Les tradis utilisent souvent des produits de génération en génération, donc en général, ils connaissent les dosages, hein, c'est leur secret. Là, c'est complètement différent, on ne court pas dans un arbre faire une potion soi-même.
Absolument, absolument. Il y a vraiment des personnes indiquées, il y a une démarche pour faire justement des compositions qui marchent et qui n'est pas toxique pour nous. Qui nous met pas en danger comme beaucoup l'ont fait.
Alors, d'autres feuilles dont il ne faut pas abuser, hein, docteur Bergès, là aussi, vous témoignez de votre expérience, de votre vécu au Burkina Faso, c'est la feuille de papayer pour traiter la dengue. Quels sont les risques là?
C'est pareil, les feuilles de papayer, c'est la toxicité hépatique, la toxicité rénale. Et donc, quand bien même ça marcherait, il n'y a pas assez d'études élaborées pour vraiment cadrer tout ça. Mais on remarque que nos patients, généralement, quand ils viennent, ils ont déjà fait justement la cure.
Et c'est quand tout ça ne va pas qu'on les retrouve avec des éléments biologiques très très perturbés liés justement à ces pratiques dans justement la cure de la dengue en fait.
Et ce sont des troubles réversibles, comment vous faites?
Généralement quand même c'est aigu. Et voilà, c'est aigu comme ce n'est pas une pratique à long terme. Ouais. Mais voilà, c'est quand même pas sans conséquence dans l'immédiat et à moyen terme. Certains, en tout cas, s'en sortent. Mais d'autres, je veux dire que ça s'intègre dans un tableau clinique. Et après, voilà, c'est un cercle vicieux. Voilà. Mais la plupart du temps, quand même, on arrive à pouvoir attraper le coup et avec beaucoup de conseils. C'est en même temps la fin des pratiques, quoi.
C'est commencer à informer. Dans votre domaine aussi, on vous retrouve au Sénégal, à Dakar, celui de la gynécologie, docteur Abdoulaye Diop. Là aussi, recours à une plante que vous déconseillez dans la plupart des cas. Fleur de la Mecque, fleur de Jéricho, déjà, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert?
Oui, la fleur de la Mecque, la fleur de Jéricho, est une plante... un arbuste qui pousse dans les contrées justement des alentours du Moyen-Orient et qui a des vertus, qui contient en fait un produit qu'on appelle ocytocyclaïque, c'est-à-dire les femmes, elles mettent ça dans de l'eau et la plante qui est un arbuste qui est un peu rabougri va s'ouvrir, les feuilles vont s'ouvrir et à l'intérieur de cette eau-là, il va y avoir des substances que lorsque la patiente boit cette substance-là, les contractions vont être multipliées par 5. Au lieu d'avoir 1, 2, 3 contractions par 10 minutes lors de l'accouchement, elle va se retrouver à 10, 15 contractions par 10 minutes. Ce qui va évidemment en mettre à rude épreuve l'utérus de la femme, avec le risque évidemment de rupture utérine. Et on a vu des cas spectaculaires de rupture utérine, d'hémorragie, de perte du bébé, etc., dû à l'ingestion justement de ces fameuses fleurs de la Mecque, des fleurs de Jéricho, qui est utilisée de manière abusive par les femmes lorsqu'elles sont au travail.
Est-ce que ça ressemble un petit peu à ce que l'on prend de façon synthétique sous forme d'oxytocine, c'est ça, quand on met au monde un bébé?
Exactement, c'est cela. À la différence que nous, lorsque nous utilisons ces oxytocines pour favoriser les contractions utérines pendant le travail, nous utilisons des doses très maîtrisées.
Bien sûr.
Une à deux ampoules de 5 unités internationales dans 500 ml de sérum salé, de sérum glucosé. Mais nous avons calculé qu'une femme qui ingérait une tasse, c'est ça le problème de la pharmacopée traditionnelle, il n'y a pas de dosage, une tasse de cette fleur de Jéricho peut contenir jusqu'à 20 ampoules de 5 ml que nous utilisons de manière classique. Et vous imaginez le risque de surdosage.
Mais ça doit provoquer des douleurs absolument abominables.
Ça provoque des douleurs affreuses, ça multiplie par 8 les contractions utérines, et parfois la maman n'y survit pas, le bébé ne survit pas, parce que c'est vraiment, on est vraiment, vraiment, vraiment dans le surdosage.
Ça veut dire qu'on a également un risque hémorragique?
Mais extrêmement grand. À chaque fois que nous avons en salle d'accouchement une hypersynésie, une accélération des contractions, on a une souffrance fœtale, on a un utérus qui est totalement raplapla après l'accouchement, il n'arrive pas à se recontracter pour éviter l'hémorragie, parce qu'on fait l'interrogatoire, on se rend compte que la maman, la tante, la grand-mère a donné à la patiente une fleur de la Mecque ou une décoction des plus variées, que ce soit la fleur de la Mecque, que ce soit les feuilles de bananier, que ce soit l'eau dans laquelle le mouton de la Tabaski a bu avant de qu'il soit égorgé. Mais ce sont des choses hallucinantes que l'on retrouve avec à la clé des hémorragies souvent mortelles. Rappelons-le, l'hémorragie du postpartum, l'hémorragie lors de l'accouchement est la première cause de mortalité des femmes.
Docteur Diop, vous êtes avec nous? Docteur Diop, la ligne a coupé. Vous étiez en train de nous donner une information très importante sur on vous retrouve, heureusement, parce que vous nous donniez une information clé. Donc, ces hémorragies postpartum qui sont une cause tout à fait première de la mortalité des mamans.
Exactement. L'hémorragie du postpartum, l'hémorragie de l'accouchement est la première cause de mortalité des femmes en âge de procréer en Afrique subsaharienne. À titre d'exemple, dans notre pays, le taux de mortalité maternelle lors de l'accouchement est de 395 pour 100 000 naissances vivantes. À titre de comparaison, la France est à 6 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et dans deux tiers des cas, ces décès sont dus à une hémorragie.
Docteur Diop, le conseil que vous donnez tout simplement, c'est quand la maman est en travail, la future maman est en travail, on ne donne aucune décoction, y compris les produits traditionnels, c'est pas anodin, à la limite un peu d'eau et c'est tout.
Parce que la physiologie du travail, il faut la respecter. Le corps, c'est bon, se contracter, c'est comment, à quel rythme se contracter pour pouvoir aboutir à l'ouverture progressive du col de l'utérus jusqu'à ce que l'enfant puisse s'engager et sortir. Lorsqu'on s'immisce dans cette mécanique bien huilée, lorsqu'on donne des décoctions dont on ne maîtrise ni la posologie ni la concentration, on perturbe totalement cette mécanique obstétricale avec à la clé des hémorragies, des décès maternels et des décès fœtaux. Donc ces produits doivent être totalement interdits et proscrits.
Alors, interdiction, je reviens sur ce mot, j'espère que la ligne ne va pas nous lâcher, elle a l'air un petit peu capricieuse. Interdiction, vous avez lâché le mot. Docteur Abdoulaye Diop, quand on a préparé cette émission, vous nous avez dit aussi que vous étiez pour l'interdiction pure et simple du kaolin, c'est bien ça?
C'est exactement cela. Je pense que les pouvoirs publics sont au courant, c'est un secret de polichinelle que tout le monde, que toutes les femmes, ou que la plupart des femmes en tout cas, consomment du kaolin. Il faudrait que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et que cette vente de kaolin qui se fait à l'air libre, qui se fait au vu et au sud de tout le monde, dans toutes les rues de toutes les capitales et toutes les villes de l'Afrique, que cette consommation de kaolin soit purement et simplement interdite. Et je pense que ça allait faire un grand pas dans justement l'arrêt de l'utilisation de ce produit qui est vraiment très 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 néfaste pour la vie des femmes et la vie des
hommes. On imagine que certains vont vous dire vous allez contre la tradition. Ça se fait depuis toujours, on ne va pas casser comme ça une partie de notre culture. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Si on a des cultures ou des traditions qui sont néfastes, il faudrait avoir le courage et la bonne volonté d'arrêter ces traditions-là et de nous conserver dans notre tradition que ce qui est positif et ce qui peut nous amener en avant.
La tradition, c'est du bon pour la santé aussi, on l'a bien compris. Docteur Bergès, justement, lutter contre les idées reçues, c'est essentiel. Il y a tellement d'idées reçues qui sont néfastes pour la santé, mais aussi il faut que les médecins, et on en parlait tout à l'heure, cet esprit d'ouverture pour que les gens osent leur confier ce qu'ils ont fait. S'ils sont malades aujourd'hui, bah oui, ils ont pris tel produit, qu'ils aient pas peur un petit peu d'avoir agi et de cacher des informations clés pour qu'on puisse les soigner.
Oui, c'est ça. En fait, il faut qu'on soit beaucoup plus à l'écoute. On est formé pour ça. Et il faut qu'on, dans la pratique, nous puissions, en tant que médecin, justement, être à l'écoute des patients. C'est tout simplement ça. Et être à l'écoute, ça permet aux patients de pouvoir nous livrer ce qu'il a de plus profond, parce que des fois, ce qu'on nous donne comme signe cache vraiment un profond malaise souvent, et donc l'écoute est très très importante.
Très importante, docteur Micondo, y compris auprès des parents, des futurs parents, même si beaucoup de choses s'enseignent de mère en fille, de tante en sœur, il y a quand même des informations qui doivent passer par les médecins, il faut faire passer ces messages.
Bien sûr. C'est vraiment important de toujours consulter, comme je dis, un professionnel de santé et puis continuer de sensibiliser à notre niveau, continuer de sensibiliser. Tout concernant l'utilisation du kaolin, comme vous l'avez signalé, les répercussions sur l'enfant sont assez graves et souvent anodines. Et certains enfants qu'on reçoit avec des troubles de la croissance, avec des troubles psychiques, on ne peut pas se rendre compte qu'il pourrait avoir une relation avec du kaolin que la mère aurait consommé.
Est-ce que vous posez toujours la question aux mamans?
C'est des questions qui sont pas vraiment évidentes, mais je pense que c'est important de les rechercher. Parce qu'il y a un suivi au niveau du gynéco, et dès que l'enfant arrive souvent, c'est avec peut-être un accompagnant, ou bien avec quelqu'un d'autre, mais quand elle a l'occasion de venir, si l'enfant n'a pas de problème particulier, c'est pas vraiment systématique de rechercher la notion de consommation des kaolin.
En tout cas, quand il y a des symptômes, c'est très très important de poser la question. Il faut bien le répéter, il faut bien le comprendre. Poser la question, est-ce qu'il vous est arrivé de consommer ce produit pendant votre grossesse? On vous remercie tous les trois, docteur Gloria Damoaliga Bergès à Ouaga, docteur Abdoulaye Diop à Dakar, et vous, docteur Hervé Kwame Micondo à Abidjan. Merci à tous trois d'avoir donné toutes ces réponses très pratiques mais absolument indispensables. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Ophélie Lassène, Juliette Brault, Stephen Esli et Laurent Hérault. Demain, nous parlerons de la fièvre typhoïde, prévention, diagnostic, prise en charge. À demain. D'ici là, portez-vous bien et surtout, lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Sounou Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sounou Assurance. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.